Et les matins débutent avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous verrons s'il y a lieu de croire en un espoir de paix au Yémen. Le premier point d'un plan de paix arraché par l'ONU s'est déroulé ce week-end dans le calme, nous dira Marie-Pierre Véraud.
Et puis nous irons également au Brésil. Le Brésil où Jair Bolsonaro poursuit sa guerre idéologique contre les professeurs et l'université.
Autres dirigeants populistes qui se rencontrent, eux, à Washington, Donald Trump et le président hongrois Orban, qui ne cachent pas leur sympathie réciproque.
Et puis en France, la campagne européenne officielle débute aujourd'hui sur les antennes radio et télé. Pour la première fois, les personnes atteintes de handicap mental et sous tutelle pourront aller voter librement.
Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, après ce journal, la question du jour dans une dizaine de minutes, Anne-Laure. Monsanto, jusqu'où peut-on ficher les individus? On posera la question à l'avocate Nathalie Metalinos.
4 ans après le début d'un conflit qui a causé la pire catastrophe humanitaire de ces dernières années, le Yémen entrevoit peut-être une lueur d'espoir. Ce week-end, en effet, les rebelles Houthis ont commencé à quitter les ports qu'ils contrôlent sur la mer Rouge. C'est ce qui était prévu par le plan de paix obtenu dans la douleur par l'ONU en décembre dernier. On rappelle que les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, combattent une coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Combat qui a causé donc la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes et mis des millions d'autres dans une situation catastrophique. Ce retrait marque donc le premier signe d'apaisement depuis 4 ans. Marie-Pierre Véraud.
Les rebelles respectent bien les plans établis. L'ONU a pris le temps de vérifier depuis samedi matin. Ses équipes ont surveillé simultanément les ports de Hodeïda, Salif et Ras Issa sur la mer Rouge. Elles ont pu voir les forces militaires rebelles quitter les lieux et commencer à céder le contrôle à des gardes-côtes qui en assureront désormais la sécurité. C'est le port de Hodeïda qui est stratégique, vital pour l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire, alors que des millions de Yéménites sont en situation de quasi-famine. Autre signe encourageant, aucun combat ni survol d'avion signalé depuis samedi dans cette région. Or, la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite n'avait pas hésité récemment encore à bombarder des entrepôts de grains. Il semble donc pour l'instant y avoir un relatif consensus pour débloquer la situation. C'est en tout cas le premier signe tangible de l'application de l'accord de cessez-le-feu de décembre dernier et le meilleur espoir d'un soulagement pour les civils en plus de 4 ans d'une guerre très meurtrière. Signe des relations exécrables toujours entre les deux parties, des responsables gouvernementaux yéménites accusent encore les rebelles de duplicité. Ils affirment qu'ils ont transféré le pouvoir et le contrôle à des forces qui leur sont favorables. Mais l'ONU contredit ces accusations. Il est vrai qu'elle a engagé sa responsabilité dans les accords de paix et a tout intérêt à les voir se mettre en œuvre. C'est en tout cas demain, mardi, que l'ONU vérifiera si les 3 ports ont été totalement évacués.
Au Soudan, les discussions reprennent ce lundi entre les militaires au pouvoir et le mouvement de contestation civile. Une réunion était prévue hier, elle a été reportée, mais l'atmosphère est optimiste selon les partis. Au Brésil, la guerre idéologique de Jair Bolsonaro fait rage et elle s'attaque aujourd'hui à l'éducation. Le président brésilien d'extrême droite continue de fustiger, ce qu'il appelle le marxisme culturel qui toucherait, selon lui, particulièrement l'éducation nationale. Le gouvernement a annoncé une baisse importante du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche contre laquelle se mobilisent les étudiants et les professeurs. Un mouvement de protestation a déjà commencé et mercredi, appel est lancé à la grève générale. À Rio, le reportage d'Anne Vigna.
Ce furent d'abord les cours de sciences humaines rayés du cursus universitaire, puis 3 universités brésiliennes punies pour être trop contestataires. Et maintenant, le gouvernement a décidé d'amputer l'ensemble du budget de l'enseignement supérieur, nous explique Sylvia. Elle est doctorante en géographie et elle manifestait ce week-end à Rio de Janeiro.
Ils ont annoncé des coupes budgétaires jusqu'à 52% dans les universités publiques. D'abord dans 3 universités et maintenant ils l'ont étendu à l'ensemble des universités. Ils ont aussi réduit le budget de l'éducation primaire. C'est vraiment un projet de l'extrême droite de casser l'éducation. Pas seulement au Brésil, c'est mondial. C'est une vague globale. Je pense qu'ils ont le même objectif. Le culte de la médiocrité, sans critique, supprimer les cours de philosophie, de sociologie, les sciences humaines, tout ce qui résiste en général.
Pour les chercheurs comme Luciana, la mesure est déplorable pour la science.
Cette coupe budgétaire va aussi affecter la production académique et scientifique, qui a une importance énorme au Brésil et qui est d'excellente qualité pour un pays en développement.
Le mouvement de protestation est général dans les universités et selon les sondages, la mesure est désapprouvée par la population. Les universitaires espèrent donc gagner cette bataille, le président Bolsonaro ayant déjà changé souvent d'avis en 4 mois au pouvoir.
Anne Vigna, c'est l'un de ses admirateurs européens. Donald Trump reçoit aujourd'hui à la Maison Blanche le premier ministre hongrois, Viktor Orban, à moins de 2 semaines des élections européennes. Et alors que les deux dirigeants ne cachent pas leur euroscepticisme, à Washington, nombreux sont ceux à critiquer cette visite, notamment à cause de la proximité du gouvernement hongrois avec Vladimir Poutine, mais aussi des nombreuses atteintes aux libertés qui sévissent dans le pays depuis l'accession au pouvoir d'Orban. Un sujet qui ne devrait pas être abordé par Donald Trump. Les précisions de Valérie Crova.
C'est peu dire que Viktor Orban et Donald Trump ont des valeurs communes. Les deux hommes utilisent la même rhétorique populiste, anti-migrant et partagent la même détestation à l'égard de la presse. Une proximité idéologique qui a conduit le premier ministre hongrois à qualifier Donald Trump d'icône. En délicatesse au niveau international, depuis sa suspension du Parti populaire européen pour ses propos europhobes, Viktor Orban a tout à gagner de cette visite outre-Atlantique pour Rob Berchinski. Il est l'un des vice-présidents de Human Rights Watch.
La principale chose qu'il souhaite, c'est une validation de sa plateforme politique. Il veut pouvoir retourner en Hongrie et dire au peuple hongrois que le président et le gouvernement américain soutiennent ce qu'il fait dans le pays. Et tout indique que c'est exactement ce qu'il va obtenir. Il lui sera très utile de recevoir cette validation du président Trump.
Recevoir le blanc-seing de Donald Trump à 2 semaines des européennes serait pour Viktor Orban une aubaine, lui qui est tenté de prendre la tête d'une coalition de partis populistes après le scrutin du 26 mai.
7h07, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin dans les matins de France Culture. Les élections européennes, justement, eh bien, elles vont se dérouler dans 13 jours exactement. Et ce lundi démarre la campagne officielle dans les médias.
Avec un temps d'antenne savamment calculé pour chaque parti à 2 semaines du scrutin, l'issue est toujours aussi incertaine pour la France. La République En Marche et le Rassemblement National sont au coude à coude, en tout cas selon les sondages. Pour la première fois en France, les personnes en situation de handicap mentale et sous tutelle pourront aller voter. Avant cela, elle devait faire une demande spécifique, mais une loi du 23 mars dernier les autorise désormais à voter sans demander la permission. La ville de Paris a pour l'occasion tenté de rendre plus accessible le scrutin à ses futurs électeurs. Le reportage de Maud Calves.
La première pour les votants, un fond bleu, des schémas simples accompagnés d'une traduction en langue des signes qui explique comment voter. La seconde pour les assesseurs rappelle que les majeurs sous tutelle peuvent être accompagnés dans l'isoloir. Le jour J, des affichettes simples à comprendre accompagneront les votants, comme Lucette Blocard, pour qui tout ça c'est très bien, mais il faudrait que les candidats aussi fassent des efforts.
Ils disent des mots que nous on ne peut pas comprendre. On ne sait pas qui voter. On a les feuilles, mais il y en a qui ne savent pas lire. Donc il faudrait qu'ils mettent des photos pour pouvoir reconnaître les personnes.
L'intérêt pour l'Europe ne manque pas. Luc Gatto l'a constaté pendant le congrès d'une association pour personnes en situation de handicap mental. Le thème, la citoyenneté européenne. Le président de l'Union des associations des parents de personnes handicapées intellectuelles, l'UNAPI, a été touché par la pertinence des questions.
Des choses passionnantes et je me suis vraiment interrogé de me dire, eh bien, oui, effectivement, pour eux, voter pour des élections européennes, cela représente quelque chose de fort.
Pour l'instant, la vidéo est diffusée uniquement dans les centres médico-sociaux parisiens. Mais Nicolas Norman, adjoint en charge de personnes en situation de handicap à la ville, espère qu'elle sera relayée sur tout le territoire.
C'est finalement des choses très simples qui ont été mises en place, qui n'existaient pas à Paris, mais qui n'existaient pas et qui n'existent encore pas. Et je pense qu'ils n'existeront pas pour les prochaines échéances européennes dans les autres villes de France. On est vraiment dans un dispositif qui veut aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui.
Prochaine étape espérée par la ville, obliger les candidats à simplifier les mots utilisés dans leur programme. Ça rendrait service aux personnes en situation de handicap mental et plus largement à tout futur électeur.
Maud Calves, ils ont manifesté jeudi dernier, mais c'est à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale que va se décider leur avenir. Les agents de la fonction publique devraient voir leur statut évoluer. les députés commencent l'examen d'un texte portant sur la réforme donc de la fonction publique. Les 36 articles du projet de loi prévoient notamment un recours accru aux contractuels tout en améliorant leurs conditions d'emploi. On y reviendra plus largement dans le journal de 7h30. Des tensions, il y en aura certainement aujourd'hui dans le groupe Air France avec la tenue ce matin d'un comité social et économique central avec les représentants du personnel. Au menu des discussions, un nouveau plan de départ volontaire de 400 personnes. Il va concerner en grande partie les personnels au sol, basés en province. Ça n'est pas le premier plan de restructuration, mais c'est le premier du nouveau PDG Ben Smith. Air France justifie ces nouvelles mesures par la très mauvaise santé de ses vols intérieurs. Hakim Kasmi.
Confronté à la concurrence des compagnies low cost, comme EasyJet, qui représente aujourd'hui un tiers du marché sur les vols en France, ainsi qu'à celle du TGV, sur Marseille, Strasbourg et désormais Bordeaux, les vols intérieurs d'Air France deviennent de moins en moins rentables. Car pour éviter l'hémorragie, la compagnie doit réduire ses marges au maximum. Or, avec 3% en moyenne, l'industrie aéronautique est celle où elles sont déjà le moins importantes. À cela, il faut ajouter les taxes et redevances en tout genre, qui représentent 35% du prix d'un billet d'avion, plus les charges sociales et le coût du carburant. Autant de raisons qui expliquent les difficultés d'Air France sur son marché intérieur. La compagnie indique qu'elle va proposer des mesures de mobilité interne pour les salariés des escales en province vers des métiers du commercial. Des mesures d'accompagnement personnalisées seront également proposées. Autant de dispositifs qui ne rassurent pas tout le monde, car une mobilité n'est pas forcément évidente, notamment pour les salariés les plus anciens, qui ont très souvent un crédit immobilier à payer. Et elle nécessite également que les conjoints et les conjointes puissent eux aussi trouver un nouveau travail. À cela, il faut ajouter le malaise des personnels au sol, qui depuis 2011 ont payé le plus lourd tribut, avec des milliers de suppressions de postes au cours des différents plans sociaux. Enfin, parallèlement, Air France indique que cette année, plus de 1000 personnes seront recrutées en CDI dans tous les corps de métier, notamment chez les pilotes.
Les époux Balkany jugés à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris, le maire de Levallois-Perret et son épouse sont poursuivis dans deux dossiers de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée. La justice reproche notamment au couple d'avoir dissimulé au fisc plus de 13 millions d'euros via des sociétés offshore et des propriétés non déclarées à Marrakech et Saint-Martin. Le temps de ce lundi, un ciel clair et calme sur la majeure partie du pays. Il fera encore un peu frais, surtout ce matin. Les températures de 2 à 13 degrés du nord-est au sud-est ce matin. Dans l'après-midi, comptez de 13 à 25 degrés du nord au sud.
Eh bien, merci beaucoup Anne-Laure Chouin.